Vous écoutez RTL. RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Je dirais malgré tout que cette vie fut belle est le livre le plus jeune de cette rentrée littéraire de janvier. Il est signé Jean d'Ormesson, 90 ans. L'académicien nous le présente dans un instant au micro de Bernard Lehu et nous vous l'offrirons au 32-10. 17 artistes rendent hommage à Daniel Balavoine dans un album qui sort demain, un disque de reprise réussi. Steven Bellery nous le fera découvrir en avant-première et nous entendrons deux des participants, Nolwenn Leroy et Florent Pagny. Côté programme télé, trois nouvelles séries de la saison 4 de Once Upon a Time démarrent ce soir. Isabelle Morini-Bosque nous aidera à choisir et puis nous prendrons connaissance de nos express du jour avec Charlotte Arrigoni.
RTL Matin,
laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour.
Parmi les 476 nouveautés
vous
du
aimez
moment,
ce chiffre,
ah, mais
je
ne
le sais.
Pas, oui, parce qu'on se dit, mais qui lit ça à part Bernard Lehu? Parmi les 476 nouveautés du moment en librairie, vous nous recommandez le livre de Jean d'Ormesson, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, publié chez Gallimard.
Ah oui, du bonheur prescrit en 450 pages. Le doyen de la rentrée d'hiver, Jean d'Ormesson, 90 ans, signe le livre le plus alerte, le plus enlevé, le plus gai, bref, le plus jeune de ce début d'année, bien qu'il s'en défendent, l'académicien publie bel et bien ses mémoires. Certes, Jean d'Ormesson s'est déjà beaucoup raconté, il a même fait que ça, pourriez-vous
me rétorquer. Exactement, oui.
Mais tout est ici pour la première fois rassemblé et surtout, on découvre qu'il n'a pas tout dit.
Je l'ai vécu que pour ce livre, en fait, j'ai fait d'autres choses. Mais j'ai vécu pour ce livre, je travaille à ce livre depuis 4 ans. Je l'ai commencé avant d'être malade, je l'ai poursuivi lentement à l'hôpital et je l'ai fini dans les 2 dernières années. J'ai évidemment beaucoup travaillé dessus. On pourrait lire de ce livre ce que je crois Fragonard, on l'a prêté à plusieurs peintres, disait à un mécène qui avait commandé son portrait. Et il fait le portrait en 3/4 d'heure et il demande une somme considérable. Et le mécène dit quoi, monsieur Fragonard? 50 000 livres pour 3/4 d'heure? Et Fragonard dit 3/4 d'heure, monseigneur, et une vie. C'est évidemment une vie qui est dans ce livre.
Et quelle vie! Ah bah oui, le château familial de Saint-Fargeau, l'agrégation de Philo, l'Académie, le Figaro, les succès, les honneurs, les plaisirs. Jean d'Ormesson revient sur tout ce que l'on connaît de son parcours, avec ce mélange de frivolité et de profondeur qui fait son élégance. Mais est-ce que vous saviez, par exemple, que Jean d'Ormesson avait fait son service militaire, où ça? Chez les Bérets Rouges, oui, les paras.
Pas du tout.
On sautait par la porte, et naturellement sautait dans le vide. Vous savez, c'est compliqué. On saute par stick. Un stick, c'est 15, 12 ou 15 types. Et chacun pousse celui qui est devant. On le pousse carrément. Et moi, moitié par amitié, moitié par ironie, parce que j'étais un intellectuel, ils m'ont dit, toi, on ne te poussera pas. Tu sauteras si tu veux. Et je me suis dit, si je ne saute pas, je suis déshonoré. Et j'ai sauté, et évidemment, sauter en parachute, c'est très très amusant. J'ai beaucoup aimé le parachutisme.
Oui, c'est très très amusant.
Heureusement,
vous trouverez la drôle. Du pur sucre. Alors, on rit très souvent à la lecture des souvenirs de Jean d'Ormesson. Exemple, l'énigmatique et inquiétante visiteuse qui se présente à lui juste après sa nomination à la direction du Figaro.
Tout le monde sait qu'en 1914, Caillaux était au pouvoir. Le Figaro avait publié des lettres un peu compromettantes pour lui. Et le directeur du Figaro s'appelait Calmette. Et Madame Caillaux, la femme de Caillaux, est venue dans le bureau de Calmette et l'a tué. Elle a tiré sur lui. Et j'arrive au Figaro, je me rappelle, c'était en janvier 1974, et l'huissier me dit, il y a là une dame qui demande à être reçue, et il me tend une carte de visite sur laquelle il y avait Madame Joseph Caillaux. Tout de suite, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai dit, qu'elle entre. Et elle est entrée, j'ai tout de suite reconnu Jean Dutour, qui était déguisé en femme, enfin à peine déguisé, il avait une perruque et un boa autour du cou, et il avait un pistolet à eau à la main, et il a vidé son pistolet à eau sur mon nez.
Ce sont des enfants, hein. Formidable ah oui, anecdote.
Une époque où on savait s'amuser.
Ouais.
Alors, la confidence est parfois plus douloureuse quand Jean d'Ormesson regrette de ne pas avoir été à la hauteur de l'affection et des attentes de son père.
Il y a bien quelqu'un qui a foutu la merde dans la famille, c'est moi. Et évidemment, mon père est mort, persuadé que j'étais un voyou, que j'étais bon à rien, que j'étais perdu. Et c'est évidemment une déchirure pour moi. Et je suis sûr que si je suis entré à l'académie, si je me suis marié, j'ai été directeur du Figaro, c'est pour dire à mon père, tu vois, eh ben, même ces institutions, je suis venu à bout d'elles.
Et je dois dire que j'ai été frappé par la place prépondérante qu'occupe son père dans le livre de Jean d'Ormesson. Un homme, il est vrai, dont la droiture et l'honnêteté forcent le respect.
Alors Jean d'Ormesson
revient. Je me souviens très très bien qu'il avait reçu une lettre d'impôt. Et il a découvert qu'il y avait eu une erreur en sa faveur. En sa faveur. Il a écrit une lettre très mécontente au contrôleur en disant qu'il s'étonnait de cette erreur et qu'il exigeait un redressement. Et je me rappelle très bien mon père me dire « C'est très ennuyeux de payer des impôts, mais enfin, plus on en paye, plus c'est bon signe, ça prouve qu'on est à l'aise et qu'on peut les payer. » Je ne sais pas si c'est un argument qu'on pourrait encore donner aujourd'hui.
Alors, autre grand élément de curiosité, hein, Jean Do revient sur son mystérieux tête-à-tête hein, avec François Mitterrand. En 1995, c'est juste avant la passation de pouvoir avec Jacques Chirac.
Oui, on a jamais su dans le détail ce que le président et l'académicien s'étaient dit. Jean d'Ormesson avait déjà lâché quelques confidences. Et ici, il en livre une nouvelle dans ses mémoires.
Il m'a dit des choses aimables sur mes livres. Et il a dit, vous aviez tort de vous occuper de politique. Vous n'avez même pas compris que j'ai mis les communistes au pouvoir pour les détruire. Il m'a dit, ce qui était très juste, il n'y a que deux personnes qui ont mis les communistes au pouvoir pour les détruire. C'est De Gaulle et moi.
Et il ajoute...
Et peut-être aussi d'ailleurs Jean-Paul II. Et c'est vrai que si vous prenez Jean-Paul II, De Gaulle... Et Mitterrand, vous avez les artisans du déclin du communisme en France, que j'ai connu très très haut. Moi j'ai connu le communisme à 33%.
Alors les personnalités croisées et évoquées par Jean d'Ormesson sont innombrables, mais quelle est celle qui, au bout du compte, l'a le plus impressionné?
C'est Aragon. C'était un adversaire politique, mais ça n'avait aucune importance. C'était un tel génie littéraire. Les vers d'Aragon m'ont transporté. C'est tellement intéressant, cet homme qui a été successivement surréaliste et communiste. Donc, la révolte même a fini par être un grand auteur classique.
Vous regrettez d'ailleurs qu'il n'ait pas pu entrer à l'Académie française.
Il m'a dit, petit, tu sais, il était provocateur. Petit, je suis snob. Je lui ai dit, vous êtes snob, mais venez à l'Académie. Et il ne m'a pas dit non. Il ne m'a pas dit oui, mais il ne m'a pas dit non.
Voilà, malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Il n'a pas réussi à convaincre Jean d'Ormesson, ses camarades de l'Académie.
Jean d'Ormesson signe des souvenirs pleins d'allégresse. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, Bernard, notamment parce qu'il a choisi de les raconter sous une forme extrêmement originale.
Mais oui, le procès de lui-même par lui-même. L'accusé Jean d'Ormesson se soumet à l'interrogatoire du procureur Jean d'Ormesson. Alors ça donne tout au long du livre un échange vif, spirituel et ironique entre, en quelque sorte, Jean des plaisirs et Jean des devoirs, le second ne cessant d'apostropher de manière peu flatteuse le premier, des échantillons, vermisseaux des marécages, pédants de café-concert, philosophes de nurserie ou torrents de suffisance. Astucieux Jean d'Ormesson fait de l'autoflagellation la plus raffinée des séductions. Et au moment de conclure, l'académicien en revient encore et toujours à son cher Aragon.
Je dirais malgré tout que cette vie fut telle qu'à qui voudra m'entendre, à qui je parle ici, n'ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci, je dirais malgré tout que cette vie fut belle.
Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, vers d'Aragon, qui donne son titre au livre De Jouvence de Jean d'Ormesson.
Publié chez Gallimard et que l'on vous fait gagner si vous répondez à la question que vous pose Bernard Lehu.
Avec une des révélations dans ce livre, dans quel régiment Jean d'Ormesson a-t-il fait son service militaire?
C'est assez surprenant, mais si vous avez été... Oui, c'est un... voilà, absolument, c'est décoiffant.
Allez, hop, et que ça saute.
Allez, hop, et que ça saute. Dans un instant, on se retrouve avec Isabelle.
32-10, Yves.
Pour la réponse. Vous appelez au 32-10 pour gagner. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, publiée chez Gallimard, le dernier livre de Jean d'Ormesson. Dans un instant, les audiences télévisées d'hier soir avec Isabelle Morini-Bosque.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Les audiences télé avec Médiamétrie. Racontez-nous tout ça, Isabelle. Je vous vois en train de...
Eh bien, écoutez, les experts finissent en tête. 5 millions de téléspectateurs, quasiment 20% du public sur la une. Les audiences sont très réparties sur toutes les chaînes. En deuxième position, M6 recherche appartement ou maison, machin ou l'inverse. 3 400 000 téléspectateurs, 14% du public sur la 6. C'est
médaille
un joli score. Et ensuite, Le Chapeau de Mitterrand, le téléfilm de la 2. 2 800 000 téléspectateurs, c'est un peu faible pour la moyenne de la case. Moins de 12% du public sur la 2. Et alors, 1 700 000 pour le documentaire animalier sur la 3. Il faut dire que quand ça s'appelle Le Messager, il y a quand même des titres qui ne sont pas vendeurs. Hein, excusez-moi, mais voilà. Et alors, côté TNT, c'est Walker Texas Ranger. J'adore ça.
Oh, j'adore.
Cette série country de TF1 qui dure. 906 000 téléspectateurs sur D17. Moi, j'adore, ça me ravit.
Très bien. On se retrouve dans quelques instants pour notre plateau télé. Musique, oui, absolument, musique à présent. Je croyais qu'on allait directement entendre un petit peu de Balavoine, non ?
Ah non, pas tout. Pour les crier SOS, partent dans les
airs, dans l'eau, la fuit notre os. Balavoine avec un S, entre parenthèses, album de reprise hommage à Daniel Balavoine. Le chanteur nous a quittés le 14 janvier 1986, 30 ans après. 17 artistes revisitent son répertoire. Stephen Bellery, vous avez écouté cet énième disque de reprise. Hein.
Oui, encore un, oui, mais celui-ci est réussi. L'album a cette force de mélanger tubes et morceaux moins connus, stars de la chanson et nouveaux talents. L'album s'ouvre avec Tous les cris, les SOS qu'on entend revisiter par Zaz. Et il y a d'autres voix féminines comme Jennifer qui reprend un morceau de l'album Un autre monde, paru en 1980, le tube Mon fils, ma bataille. La reprise la plus épatante est signée Nolwenn Leroy. La chanteuse a choisi un morceau un peu plus confidentiel du répertoire de Daniel Balavoine. Un titre qui refermait son ultime album Sauver l'amour. C'était en 1985. La chanson s'appelle Un enfant assis attend la pluie. Reprise réalisée pour ce disque par Christophe. Nolwenn Leroy nous présente cette chanson.
Cette chanson, Un enfant assis attend la pluie, pour moi, c'est l'essence même du combat qu'a mené Daniel Balavoine toute sa vie. C'est une chanson finalement un peu testamentaire, presque prémonitoire d'une certaine manière. Le manque d'eau en Afrique, cet enfant qui est perdu seul au milieu du désert et il pleut pas. Et c'est ce qu'a fait Balavoine, et essayer d'aller installer des puits en Afrique. Donc on est vraiment au cœur de son combat. Balavoine était quelqu'un qui donnait tout, qui délivrait tout et qui était dans une certaine forme d'urgence. C'est ce que je ressens dans sa manière de chanter, de délivrer. On a l'impression que c'était à chaque fois la dernière fois qu'il chantait, en fait. Ses chansons n'ont pas vieilli, le message est toujours là, toujours aussi fort, toujours autant d'actualité.
Il y a d'autres titres oubliés comme cette chanson, hein, remise en lumière, Steven.
Oui, Raphaël a choisi Soulève-moi et Ours, fils d'Alain Souchon, a jeté son dévolu sur le titre Si je suis fou, plage 7 de l'album Le Chanteur, sorti en 78.
Si je suis fou, je m'en vais 2 ou 3 jours, je reviens, je me pends à ton cou. Je veux réussir ta vie et surtout.
S'approprie compris très bien ce titre, à l'inverse de Féfé qui embarque l'Aziza dans son univers, là j'aime pas du tout. D'autres artistes ont choisi de rester très fidèles aux versions de Daniel Balavoine, c'est le cas d'Emmanuel Moire.
De grands noms de la chanson.
Hein. Oui, cet album hommage ne se limite pas à la jeune génération. Christophe, Magnifie, Lucie et Florent Pagny reprend un classique de 1980 sans forcer.
La vie ne m'apprend rien.
Avec le métier que j'ai, on le fait plus. C'est pas la peine de mettre du sucre sur du sucre. Au contraire, c'est comme ça qu'on la valorise encore plus. Balavoine, quand il arrive avec ce « Je me présente » avec la chanson du chanteur « Je m'appelle Henri ». Avec une telle voix et une manière de proposer de la variété un peu différemment, déjà, il est atypique. Et c'est vrai que tu le regardes en faisant « Tiens, il est marrant, lui, avec ses baskets blanches et tout. » Cette espèce de personnage un peu rond comme ça, mais super dynamique et très classe. L'artiste, avec le parcours qu'il a eu, la manière qu'il a eu de faire sa carrière toujours en étant et un vrai chanteur mais toujours un peu alternatif, populaire et en même temps avec un discours, avec une intelligence prononcée on dira, ça le rendait toujours plutôt sympathique, pas commun.
Balavoine, avec un petit S entre parenthèses, l'album Hommage sort demain, émission spéciale sur TF1, samedi soir en direct du Zénith de Paris.
Trees, hein. Aimer plus fort que d'être aimé. Merci beaucoup, Stephen Bellery.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Les Express LVT.
Bonjour Charlotte Arrigoni.
Bonjour Yves et bonjour à tous.
Renaud annonce donc que son nouvel album sortira en mars, Charlotte.
En effet, après 8 ans d'absence, bonsoir, le chanteur a annoncé hier sur la page Facebook Soutenons Renaud qu'il venait de terminer l'enregistrement de ce disque dont on ignore le nom pour l'instant. L'occasion aussi pour lui de donner des nouvelles rassurantes de sa santé. « Je ne bois plus une goutte d'alcool depuis 108 jours », écrit-il. « Je ne fume plus que maximum 15 cigarettes par jour. Je pète la forme. »
Elle aussi pète la forme, c'est Madonna. Mais à Singapour, les moins de 18 ans ne pourront pas en profiter, dites donc.
Eh oui, puisque les mineurs n'auront pas le droit d'assister au concert de la pop star américaine le 27 février et le 28 février prochain dans un stade de 55 000 places. Les autorités locales estiment en fait que le show est jugé trop osé, qu'il y a trop de références sexuelles. Il faut savoir qu'en 1993, la reine de la provoque avait carrément été interdite de spectacle dans la cité-état.
Elle enlève même plus sa culotte dans cette
tournée. Oui, mais à Singapour, c'est très, comment dirais-je, tenu. Alors, on l'a prière avec tristesse, la disparition de Pierre Boulez à l'âge de 90 ans.
Oui, le compositeur français, notamment à l'origine de la création de la Cité de la Musique ou de la Philharmonie de Paris, connu et joué dans le monde entier, il est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes du monde musical depuis plus de 60 ans. Pierre Boulez a dirigé les plus grandes institutions comme la Philharmonique de New York dans les années 70. Le chef d'orchestre, Jean-Claude Casadesus, a été son élève au conservatoire. Ils se sont souvent croisés, il se souvient.
On avait l'impression d'un oiseau qui planait quand il dirigeait. C'était quelqu'un qui, au fond, jouait la musique telle qu'elle avait été écrite, et un peu comme le prônait Stravinsky. Il avait un esprit d'un modernisme exacerbé et extraordinaire. Il luttait contre ce qu'il appelait le côté réactionnaire de la musique et il voulait inventer. Qu'est-ce que c'est qu'un compositeur digne de ce nom ? Quelqu'un qui apporte une touche nouvelle, qui apporte une réflexion nouvelle dans la transmission d'une œuvre. Mais aussi, c'était un chef d'orchestre assez exceptionnel, qui était un peu autodidacte, mais qui, grâce à sa pensée musicale et à sa qualité d'extraordinaire professionnel, lui avait permis d'aborder tous les styles.
Jean-Claude Casadesus, à votre micro, Stephen Bellery.
Et si vous voulez voir LCI en gratuit, il va falloir encore patienter un petit peu.
Oui, la chaîne d'information espérait débarquer début janvier sur le canal 26 de la TNT gratuite, mais en fait, ça devrait être plutôt pour début février. Rien de grave, il faut simplement attendre la signature de la nouvelle convention de la chaîne entre LCI et le CSA, et tout ça prend un peu de temps.
Merci Charlotte, c'était les Express de Laissez-vous tenter. On passe à la télévision. Il y a évidemment un envoyé spécial, Isabelle Morini-Bosque, consacré aux attentats sur la 2, mais c'est aussi un soir riche en fiction avec le démarrage de 4 séries Votre défi, nous les présenter en moins de 3 minutes top chrono, commencer par la plus festive. Tiens.
Oh là là, sans hésiter, Once Upon a Time. Il était une fois sur M6, début de la saison 4 de cette série dans laquelle les personnages de contes se retrouvent dans notre monde. Et ce conte est bon, avec ce soir l'apparition de Cruella, vous savez, cette femme qui a du chien mais sur le dos, en fourrure. Et surtout, apparition de la Reine des Neiges. La production s'est souvenue que le dessin animé était le 8e film le plus vu dans le monde. Mm-hmm. Et ça l'a pas laissé de glace. Bref, c'était pas tant. C'est à 20h55, c'est sur M6.
La plus grand public maintenant.
Ouf, Instinct, sur TF1. Un polar, un flic qui a des ennuis, demande à son frère jumeau avec qui il avait plus de contact de le remplacer, sauf qu'il disparaît avant d'avoir eu le temps de lui expliquer la situation. Et du coup, l'autre, joueur de poker professionnel, ça peut servir, mm-hmm, fait comme il peut à la crime. Faut pas longtemps à sa partenaire pour découvrir qu'il y a quelque chose cloche.
Ok, ça suffit là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me fais depuis deux jours? Je te reconnais pas.
Rien, je suis exactement comme d'habitude.
Non, t'es pas comme d'habitude, me raconte pas n'importe quoi. Je te laisse après une nuit de boulot où t'as à peine décroché deux mots.
C'est pas constamment vraisemblable, c'est pas constamment surprenant, mais c'est constamment sympa et vivant, alors on prend. C'est Olivier Sigtruc qui joue le rôle. Il avait déjà joué des jumeaux échangeant leur quotidien dans Jeff et Léo sur M6. Cette coïncidence n'en est peut-être pas complètement une, il redouble donc.
La plus haletante?
Le feuilleton israélien False Flag sur Canal+. 5 Israéliens lambda, sans lien entre eux, voient brusquement leur visa apparaître sur les écrans du monde entier. Dans les infos, ils sont accusés d'être les ravisseurs d'un politicien iranien à Moscou. Parmi eux, une ravissante créature qui essaye sa robe de mariée avec sa meilleure amie quand le fiancé frappe à la porte.
Tu peux y aller, mais il faut pas qu'il me voie. Non, non, d'autre part. Qu'est-ce qu'il y a? T'annules le mariage?
Il y a eu une opération du Mossad en Russie. Ils ont utilisé des passeports.
Et alors?
Celui de Nati aurait servi pour l'opération.
Oh, tu me fais flipper, là.
Révi, qu'est-ce que tu fais?
C'est toi qui lui dis.
Non, pour l'instant, on lui dit rien du tout. Je vais passer des coups de fil pour en savoir plus.
C'est la cata.
Alors, les 5 sont-ils innocents, coupables? On verra, je vous dis, c'est haletant. Prenant, surprenant. Et comme Khatoufim, la série israélienne Khatoufim, devenue Homeland aux États-Unis, bah, False Flag fait actuellement l'objet d'une adaptation américaine. Ils ont racheté les droits pour tous les pays du monde. Vous verrez, il n'y a pas que la mariée qui n'est pas à la noce. Et je vais vous annoncer moi-même, enfin, la série la plus glauque. C'est en immersion, parce que peut-être vous n'auriez pas pensé naturellement à cette catégorie. Non. C'est en immersion sur Arte. Alors, parce que sa fille a fait une overdose, un flic condamné pour une tumeur au cerveau. Déjà, on voit tout y est. Hein.
Oui.
Un réseau décidé à envahir le monde avec une drogue de synthèse cachée dans une cigarette électronique.
Bah voyons.
La nouvelle génération de la cam synthétique. Tu la portes sur toi, en soirée, au bureau, au collège. Prix public d'appel, 2 doses pour le prix d'une. Je veux une cam saine, un truc qui te fait voir Dieu dès la première prise. Et où pour le revoir, faut augmenter la dose. Un truc dès que t'es en manque, tu descends en enfer. Dès le début de ta crise, tu descends plus, tu chutes. Attention, hein, douloureux mais pas mortel, faut que les clients durent.
Ça va te coûter cher.
Si pour 500 fiches, t'es pas foutu de m'inventer une ligne directe avec Dieu.
Les voyages vers Dieu, j'en fabrique tous les matins. Mais pour les miracles, ça demande un petit délai.
Oui, c'est vraiment des ordures dures. Hein. Oui. C'est filmé en noir et blanc, et franchement, noir c'est noir, on se tape. Les hallucinations esthétisantes du héros pendant des minutes et des minutes, une musique insupportable, une violence qui cesse vite d'être efficace pour devenir complaisante. C'est signé Philippe Heim, il a tout fait, il aurait peut-être pas dû. Il a été nagué à primé pour Braco, alors ce qui est incroyable, c'est que c'est prétentieux. Moi, je trouve ça très prétentieux.
Oui.
Mais comme c'est très addictif et quand même très instructif, eh ben, on est fasciné jusqu'au bout.
Mais
c'est comme les drogues, on regrette d'en prendre,
parce que vous
mais
nous
on
dites
regarde.
Des horreurs et après vous nous donnez envie de regarder.
Mais enfin, oui, mais c'est, vous verrez, ah ben, j'aimerais bien
je regarderai
votre
les
avis,
Israéliens sur Canal+, moi, ça y est, je suis désolé. Vous m'avez bien vendu Canal+.
Bah, bon. Je vais vous fournir tous les DVD, vous allez
voir. Oui, vous dites ça à chaque fois, je les vois jamais. Alors,
c'est un peu vrai.
Tac.
Non, mais vous allez voir.
Bon, alors, je vous rappelle que nous vous avons demandé pour gagner le dernier merveilleux livre de Jean d'Ormesson, Je dirais malgré tout que cette vie fut belle, paru chez Gallimard. Nous avons demandé dans quel régiment Jean Do avait fait son service militaire. Si vous nous avez bien répondu, eh bien, vous aurez gagné ce livre dans un instant. Nous vous donnerons la réponse.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvin.
Je me posais la question, Bernard Lehu, dans quel régiment Jean d'Ormesson a-t-il fait son service militaire?
Sais, vous la posez depuis très longtemps.
Oui.
Eh bien, donc, c'est ce qu'il révèle dans ce dernier livre. Il a servi chez les bérets rouges, autrement dit, les parachutistes, et il a sauté.
Et c'est une des révélations de Je dirais malgré tout que cette vie fut belle. Je ne l'ai pas bien dit, on recommence. Je dirais malgré tout que cette vie fut belle aux éditions Gallimard. C'est un vers de...
D'Aragon.
Vous avez gagné le livre, c'est parfait. Merci à toute l'équipe, on était très éclectiques et c'était extrêmement agréable. Bonjour Julien.
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai...
J'irai par les chemins.
Vois-tu, je sais que tu m'attends, j'irai par les chemins, j'irai par la campagne. On peut tous citer des vers aussi.
Ah oui,
comme
mais
ça.
Alors là, non, mais attendez, alors là...
Victor
là,
Hugo.
Oui, les contemplations.
Bravo.
Bien.
Là, je n'ai plus rien à dire, je m'incline.
Ceci étant dit, je vais être honnête avec vous, c'est le seul que je connais. Donc ne me demandez pas demain, parce que je serai très embêté.
Bah, on sait très bien.
Là, quand je vous ai entendu en urgence, j'étais sur Wikipédia, là, j'ai tapé « trouver un verre pour pas avoir l'air bête ».
À balancer en direct.
Je n'aurai pas le temps de le faire tous les jours.
C'est bon.
On y va pour la consultation, on y va pour la porte ouverte.
Allez-y les enfants.
Bonne journée.